normalement, le mois d'Adar, il y a une fête, comment ça s'appelle? Ah oui, Purim, oui. Et Purim, normalement, on lit d'abord Parshat Zachor. Avant Purim, on lit Parshat Zachor. Alors, on va étudier un petit peu cette histoire de Parshat Zachor. Zachor et Asher Asalacha Amalek, Baderech Betzitchem Mitzrayim. Rappelle-toi ce que Amalek il t'a fait quand tu es sorti d'Égypte. Asher Karcha Baderech, Vayezanef Becha Kola Nechashilim Acharecha. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Asher Karcha. Il t'a Karcha Baderech. Sur la route, il te Karcha. C'est quoi Karcha? Hein? Il t'a pris. Karcha, c'est prendre, c'est le gematria. Vérifiez si Karcha, c'est gematria, pris. C'est juste? Alors, c'est faux. Alors, c'est quoi Karcha? Milachon kar. Karcha. Pas mal, pas mal. Kar veut dire quoi? Froid. Karcha. Il t'a refroidi. Il t'a refroidi, c'est-à-dire quoi? Il a arrêté le chauffage. Il t'a refroidi, c'est-à-dire quoi? Il t'a refroidi. L'histoire avec? Comme le baignoire où il y avait de l'eau bouillante dedans. Rashi nous raconte, un jour, un homme, il a chauffé de l'eau, il a mis dans un baignoire. Brûlant. Alors les gens, ils étaient autour, ils ont dit, oh là là, personne n'est capable de rentrer dans cette eau. Impossible. Il est venu un abruti, il a sauté dedans. Ah, il s'est bien brûlé. Mais les gens, ils disent, nous, on peut rentrer. L'eau est maintenant aux yeux des gens moins chaud qu'avant. On peut, bon d'accord, il s'est fait avoir, mais on peut rentrer dedans. Ainsi Amalek, il t'a refroidi, ça veut dire que toutes les nations du monde, quand ils ont vu la sortie d'Égypte, quand ils ont entendu Kriyat Yamsouf, ils ont dit, ah les Juifs c'est les copains du bon Dieu, il les protège, il détruit tous leurs ennemis, il ne faut surtout pas toucher ces Juifs. Chil Achaz. Yoshua Ipelachet, Azni Valu Aloufe Edom, et les mois du José Mourad, Namogo Kol Yoshua Hanan. Ils ont tremblé, ils ont paniqué, ils étaient pleins de frayeur, ils ont dit, les Juifs sont inattaquables. Ah, Kadesh Boko, ils massacrent ceux qui les touchent. Donc les Juifs, ils étaient comme cette eau bouillante dans cette baignoire, on ne peut pas les attaquer. Amalek, il a dit, ah non, non, il ne faut pas que les gens y croient comme ça des Juifs. Moi, je les attaque. Et je rentre dedans. Bon, il s'est fait bien griller. Voyez, alors, Joshua est Amalek, est Amol et Ficharef. Il a reçu une bonne tannée. Mais au moins, il a montré à tout le monde qu'on peut les attacher. On peut les attaquer. Il ne faut pas s'y croire que les Juifs, ils sont au-dessus de tout le monde. On peut les attaquer. Donc, il a permis à d'autres nation, on peut attaquer, et comme ça il a ouvert la route vers tous les embrouilles que les Juifs ils avaient, tous les antisémites, ils osent attaquer les Juifs. Ça c'est la première traduction de mot Asher Karcha Baderech. Qu'est-ce qu'il y a encore comme traduction? Qui sait une autre explication? Karcha. Quoi? Mikré. Ça veut dire quoi en bon français? Hasard. Asher Karcha, il t'a rencontré par hasard. Par hasard, il a rencontré les Juifs. Est-ce que vraiment c'était par hasard? Bien sûr que non. Tout était calculé. Tout était réfléchi. Depuis que les Juifs ont dit qu'ils vont sortir d'Égypte, Amalek, il a déjà préparé le plan. Si jamais ils sortiront, on va aller les attaquer. Tout était calculé avec Bilam. Mais ils ont fait semblant qu'ils sont venus par hasard. Paf, pile, on passe dans le désert, pile, ils tombent sur les Juifs. Bon, alors ils étaient obligés de se bagarrer avec eux. Ça, c'est Melachon Mikre. Et l'autre pshat que Rashi raconte, c'est quoi?
Quoi?
Rashi donne le troisième pshat. Mikre, c'est-à-dire la chaune tum'a, impur. Il a essayé de rendre impur les juifs. Alors, la grande question qui se demande ici, c'est quoi? Si karcha veut dire hasard, mais la chaune mikre, et karcha veut dire refroidir, de l'expression kar, froid. Pourquoi la Torah utilise un mot pour nous enseigner deux choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre? La Torah veut nous dire qu'il est venu par hasard, il a fait semblant qu'il vient par hasard, et la Torah veut nous dire qu'il a refroidi les sentiments des nations. Pourquoi la Torah met ça dans le même mot? Alors vous allez me dire, parce que la Torah veut gagner de l'encre. Parce que chaque sofer, quand il écrit une Sefer Torah, doit utiliser de l'encre et du parchemin. Et si on peut faire un mot de moins, eh bien c'est mieux, c'est juste. Ça c'est aussi une explication. Mais il faut savoir que quand la Torah utilise un mot où il y a deux sens dedans, c'est pas par hasard, comme on dit. Ça a été aussi calculé. Alors, qu'est-ce qu'on calcule ici, le mot karcha? Mais le pshat, il est comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire, il t'a refroidi? Le froideur. C'est quoi le contraire de froideur? La chaleur. Alors, froid et chaud sont des phénomènes de la physique. C'est chaud, c'est froid. Mais chaud et froid, il y a aussi quelque chose, une symbolique, un sens imaginé. La chaleur est liée avec quoi? La froideur est liée avec quoi? Qu'est-ce qu'il est chaud? Hein? Le soleil. Alors le soleil, oui, chaud et aussi lumière. La chaleur, c'est une source d'énergie. Chaleur égale énergie. Chaleur égale vie. Vous avez déjà rencontré un homme mort? Quand vous donnez la main à un homme mort, vous dites bonjour. Qu'est-ce que vous sentez sur sa main? Froid. Un mort, il est froid. Froideur, c'est la mort. Ce qui ne bouge pas. Ce qui n'a pas des sentiments. La chaleur, c'est une source d'énergie, de vie, de motivation. On a un but, zrizout. C'est quoi zrizout en français? Le zèle, empressement, enthousiasmé. On est enthousiaste à quelque chose. On est chaud pour quelque chose. On veut arriver à quelque chose. La froideur, c'est manque de... Il manque de zèle, il manque de vie, il manque de l'énergie, il manque un but dans la vie. Il y a des gens qui sont chauds, ils ont froid. Vous voyez deux personnes dans la rue. Il y en a un qui marche comme ça. Mais il y en a un autre qui... Alors vous dites quoi? Le premier, il est chaud. Il est chaud, il a zrizout, il est motivé, il sait qu'est-ce qu'il fait. Et l'autre, il est là comme un... Il y a classe à À 2 heures, il y a classe, il faut monter. Il y en a un qui monte les escaliers comme ça. Et l'autre... Qui est plus sujet au suicide? En France, il y a 27 suicides par jour. Ça fait par année 365 fois 27, ça fait combien? Beaucoup, c'est pile, c'est exact. Oui. Ça fait combien? Presque 10 000. Ça fait sur 10 années combien? 100 000. Et c'est pour étaler sur une vie de 70 ans, ça fait 700 000. Et s'il y en a 65 millions de sujets en France, alors sur étaler sur la vie d'un homme, ça fait combien? 700 000 morts. Sur 65 millions de gens, ça fait 1 sur 1 sur 1 sur 1 sur 65 millions divisé par 650 000, ça fait combien chez les juifs? Où sont les comptables? 10, c'est fort. Mais je ne te prends pas comme comptable, moi. Hein, 100, ça fait 100. Ça fait 1%, ça veut dire que vous allez au métro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 1. Le centième, plaf, celui-là, il va se suicider. 1 sur 100, il va se suicider. Qu'est-ce que la Torah nous raconte ici? Korah, il t'a refroidi. Le juif était chaud. Les nations étaient chaudes devant les juifs. Les juifs, ils étaient chaleureux. Ils ont débordé d'une énergie, d'une conviction, d'une assurance. Quand quelqu'un il est motivé par quelque chose, c'est parce qu'il est sûr. Il a une assurance et c'est ça qui déclenche l'énergie que l'homme il va de l'avant. Il va, il travaille, il sait, il est content, il est heureux, il vit. Mais on peut refroidir quelqu'un. Ne soyez pas si enthousiaste. On commence à critiquer. On remet en question. Ah, je suis sceptique. Monsieur Amalek, il est venu. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Les goyim, ils sont tous émerveillés des juifs. Pourquoi? Parce qu'il y avait Esa Makot en Égypte, il y a Dieu. Mais attends, on ne soit pas crédule. Quoi? Il y a des bêtes sont venues, ils ont mangé les Égyptiens, pas les juifs? Bon, peut-être les juifs, ils avaient des chapeaux, des streimels. Et ils avaient peur, peut-être, lions devant eux. Mais les Juifs, les Égyptiens, non. Et le microbe de la peste, il attaquait que les animaux juifs. Ah, peut-être les animaux juifs, ils avaient aussi un streim, là. Non, ça, c'est un peu difficile. Et pourquoi le microbe, il connaissait qui est animal égyptien? Par hasard. Et les sauterelles, ils ont mangé que les bananes des Égyptiens. Les bananes des Juifs, ils n'ont pas mangé. Pourquoi? Peut-être les sauterelles sont intelligents, ils ne voulaient pas les juifs. Et pourquoi quand les juifs, ils arrivent à la mer, puis à ce moment-là, il arrive un vent de l'est, très fort, il coupe en deux. Bah, ça peut arriver, vous comprenez. Et puis après, quand les juifs sont sortis, c'est tombé sur les autres. Oh, c'est un espèce de tsunami, je ne sais pas quoi. Mais pile quand les juifs, ils sont arrivés, l'Égyptien. Oui, peut-être, pourquoi pas. Peut-être, pourquoi pas. Avec le scepticisme et la hypercritique, il y a un homme qui est critique. Ah non, non, je ne vais pas me faire avoir parce que toi, tu me le racontes, je ne te crois pas. Je remets en question. Je suis critique. Non, mais il faut voir, il faut vérifier, il ne faut pas se laisser convaincre si facilement. Ça, c'est la critique. C'est bien, la critique. Mais il y a quelque chose qui s'appelle la hypercritique. Hypercritique, c'est quand on veut refuser la thèse de l'autre, on le tire par les cheveux. Bon, je vous aurais déjà raconté mon iPhone, comment je l'ai fabriqué. Je vous ai raconté une fois?
Non.
Je ne vous ai jamais raconté mon iPhone? Où je l'ai acheté?
Apple.
Ce que vous croyez. Vous croyez que moi je vais dépenser 100 euros pour chez Apple? Quoi? Non, ni chez un Pakistanais, ni chez Apple. Ni à Barbès. Vous n'y êtes pas. Je vais vous raconter. Vous avez entendu parler des machines à laver Brand? Pas une rigole. Ça existe, oui. Bon, moi, je vais vous raconter l'histoire. Ça reste entre nous. Il ne faut pas raconter parce que je ne sais pas si tout le monde y va comprendre. Je vous dis quelque chose, un secret. Entre nous, d'accord. Notre ami, on a le droit de se raconter des histoires personnelles. Ma grand-mère, elle avait une machine à laver. Il y a 23 ans en arrière, elle était encore vivante. Mais elle est tombée en panne. Même les branches peuvent tomber en panne. Alors, elle habitait au 13e étage. Alors, on voulait faire descendre pour acheter une autre. Mais l'ascenseur était bloqué. Ah, qu'est-ce qu'on a fait? L'ascenseur est bloqué, il faut de la place. Moi et mon frère, on est partis, 13e étage, on a regardé bien en bas, on a pris le balcon, personne n'était en bas, et on l'a jeté. Et, chlac, ça fait un petit boum. Et après, on est descendu à pied, parce que l'ascenseur était bloqué. Qu'est-ce qu'on a vu en bas? On a vu un iPhone. Et j'ai vu, il y en a un qui l'a filmé avec un autre iPhone. Quand, dans la machine à laver, il y a du cuivre, des fils et des plastiques. Et un mécanisme électronique, il y a verre, il y a toutes sortes de trucs. Vous avez déjà vu dans un... Alors, il y en a un qui a filmé, après il a fait doucement. Quand c'est tombé, il est tombé un fil ici, un ici, un ici, un ici. Ça montait truc et c'est devenu un iPhone. Et il marche super bien. Alors, qu'est-ce que vous dites sur ces thèses? Je vois que vous riez, vous ne voulez pas me croire. C'est pas gentil. Vous me croyez, voilà un homme intelligent. Vous pouvez, si vous ne me croyez pas, faites l'expérience. Sans que ma tête il est en dessous. Faites l'expérience. Ça, une fois sur deux, ça marche. Pas toujours, je n'ai pas dit que toujours ça marche, mais une fois sur deux, ça marche. Il faut bien comprendre, l'esprit humain refuse les choses ridicules, les thèses ridicules. Ça ne tient pas la route, mais qu'est-ce que tu me racontes? Pour fabriquer un iPhone, il faut être un Steve Jobs, comme il s'appelle le gars? À la vache. Alors, il faut être un génie, il faut réfléchir. Mais c'est calculé, il n'a pas pris un plastique, il l'a mis ici, par hasard, c'est sorti. Évidemment, il a fait un projet planifié après des longues études et des calculs et des mathématiques et des mécaniques et des électroniques et plein de choses. Il a utilisé des ingénieurs et des architectes et comment faire. Et après que le monde a déjà développé plein de choses, après on a fait ça. Avec des outils et des précisions. C'est comme ça que ça monte. Maintenant, la question, elle est, qu'est-ce qu'il est plus perfectionné? Un iPhone ou l'œil humain?
L'iPhone.
Voilà un homme intelligent. Hein? Combien d'iPhones il y a dans le monde? Combien d'iPhones les humains sont capables de faire? Et combien des œils humains les hommes sont capables de faire? Est-ce que tous les scientifiques, ils ont réussi à faire une cellule vivante, est-ce qu'on était capable de fabriquer une cellule vivante? La nature, elle est composée par des milliards de choses. Une goutte de sang, une goutte de l'eau, une molécule, comment c'est fabriqué? Il faut être un génie, de génie, de génie. Il faut être 1000 fois Steve Jobs pour fabriquer une cellule vivante, un morceau de sucre. Il arrive des gens, qui a créé le monde? Et qui a créé le monde? C'est venu par hasard, comme ça. La plus grande idiocerie qui existe au monde. Vous savez, vous avez déjà vu ça dans le truc là. Connaissez les quatre là? Les quatre. Le 4, le 5, le 6, le 5, le 5, le 5, le 5, le 5, le 5, le 400 milliards d'années. Le 5, le 5, le 5, le 5, le 5. Mais ce qu'il faut bien savoir, ce qui est marqué dans ces livres de science, ce sont des vraies photos. Le type de livre, il a existé, il a pris une photo, il a vu que c'était comme ça. Hein, c'est des vraies photos. Ah oui. Et ils mettent ça dans le livre de science. Ça veut dire quoi, science? Science, ça veut dire quelque chose qu'on peut vérifier, qu'on peut faire une expérience et on tombe avec les mêmes données, on tombe toujours sur le même résultat. C'est quoi la science? Si quelqu'un y fait un conte de fées, ça s'appelle comment? De fiction, science-fiction. Science-fiction et science, ce n'est pas la même chose. Dans la science, 2 fois 2, ça fait combien? 4. Ça, c'est dans la science-fiction, 2 fois 2, ça fait 5. Connaissez l'histoire qui cherche un comptable? Un expert comptable, il cherche un collaborateur. Alors, il met un annonce, cherche collaborateur. Alors, il y en a 3 qui arrivent. Ils attendent dans la salle d'attente. Premier rentre. Bonjour, monsieur. Vous savez compter?
Bien sûr.
2 fois 2, 4. Non, je ne vous prends pas. Il sort. Non, il t'a pris? Non. Pourquoi? Je ne sais pas, il m'a demandé 2 fois 2, mais j'ai dit 4, il ne me prend pas. Bon. Deuxième, il rentre. 3 fois 3, 9. Non, je ne vous prends pas. Au revoir. Non, il t'a pris? Non. Pourquoi? Je ne sais pas, il me demande 3 fois 3, et j'ai dit 9, il ne me prend pas. Ah bon? Le troisième, il rentre. Bonjour, monsieur, vous savez compter?
Oui.
4 fois 4. 4 fois 4. Attendez, monsieur, attendez. Il ferme la clé. Il baisse le rideau. Et dites-moi, vous voulez que ça fait combien? Ah, voilà le comptable que j'ai besoin. Alors, il y a science, il y a science-fiction. Dans la science, ça doit tomber pile. Et que chez tous les humains, ça doit tomber de la même façon. En Chine, 2 fois 2, ça fait 4. Chez les Américains, 2 fois 2, ça fait 4. Ça existe que chez les gens qui ne veulent pas payer leurs impôts, que 2 fois 2, ça fait 5 ou 7 ou 3,5 ou je ne sais pas quoi, ou 0, ou ça n'est... La logique humaine, elle ne supporte pas la hypercritique. On ne peut pas dire que quoi, que le microbe, il a attaqué que les Égyptiens et pas les Juifs. Et les chrétiens, sauf tout ça, c'est par hasard. Le monde entier est par hasard. Or, c'est ça qu'Amalek cherchait. Amalek, c'est ce type que pour lui, le monde est un hasard. Tout est par hasard. Il n'y a pas de patron derrière. Il ne faut surtout pas accepter un patron. Tout est par hasard. Le monde, la nature, elle est là par hasard. On ne veut pas voir un génie patron super puissant derrière. On ne veut pas le voir. Et si on voit dans la nature qu'il y a un hyper génie puissant derrière, on le nie. La chutzpah de nier est tordre le sechel. Et après, quand on voit tous les miracles de la sortie d'Égypte, non, hasard, tout est hasard. Ça, c'est korcha. Qu'est-ce qu'on gagne avec la philosophie d'hasard? On gagne de pouvoir quoi? Refroidir les gens qui ont une conviction. Les Juifs, ils avaient une conviction. Mais ça, c'est Dieu. Vayamin ou Bachem, Moshe Avdo, Chilachaz, Yoshua et Pelachet. Az Nivalou, Alephedom, tout le monde y tremblait, mais ça, c'est pas un hasard. Mais là, il y a Dieu, ça, c'est Dieu. Même Paro, il a dit, Hashem Atzadik, Vani, Vami Harshaim. On est des gens tordus. Dieu, il est vrai. Moshe Rabbeinu, il nous dit la vérité. Les Khartoumim, à la troisième Akka, ils ont dit Etzba Elokimi. Ça, c'est un doigt de Dieu. Là, ça ne marche plus avec la manipulation. Là, ce n'est pas la manipulation d'esprit. Que le type, il est capable de faire sortir les Kinim et que les poux, ils attaquaient les Égyptiens, hein, pas les Juifs. Ça, non, non, ça, c'est dirigé par Dieu. Et les poux, ils arrivent quand le Moïse le dit. Et les poux, ils partent quand le type, il le dit. Ah ben, ils commandent la nature. Ça, c'est que Dieu qui peut commander la nature ou celui à qui Dieu il a donné son pouvoir. Les Juifs, ils étaient convaincus. Les nations, ils étaient convaincus. Mais Amalek, il est venu, non, tout est hasard, pour refroidir, pour enlever l'estime, l'émerveillement, l'enthousiasme, la chaleur que tout le monde, il avait, refroidir ce bain. Ça, c'est les forces d'Amalek. Et ce Amalek, il existe aujourd'hui aussi. Aujourd'hui, en France, il y a quelque chose, un phénomène. Il ne faut pas parler de Dieu. Il ne faut pas dire que Dieu, il a créé le monde. Il faut que ça reste un doute. C'est une obligation de rester dans le doute. Il ne faut pas être dogmatique. Il ne faut pas les dogmes de religion ou de foi. Bon, tu voulais croire en Dieu, vous interdis pas de croire en Dieu, mais vous ne pouvez pas le dire dans une école enseignante. Aux enfants, on n'a pas le droit, ce que je fais, c'est interdit, mais comme je ne suis pas payé par l'académie, donc je me permets. Si on est payé par l'académie, on n'a pas le droit de dire dans une école Mes enfants, c'est logique, il y a un Dieu. Chut. Et alors, qui est-ce qui a créé? Il faut que ça reste un doute. Un jour, un bon Français apicoïres, il a dit à un Juif. Le Juif, il a dit, mais c'est sûr qu'il y a Dieu. Mais c'est l'évidence même. Il a dit, ça n'existait pas l'évidence. Un homme ne peut jamais être sûr. Un homme, il doit toujours rester dans le doute. On n'a pas le droit d'être sûr, vous ne pouvez pas être sûr. Alors, les Juifs ont répondu, vous êtes sûr avec ce que vous dites? Qu'est-ce que je réponds, oui ou non? Si je réponds, je suis sûr. Mais j'ai dit qu'on n'a pas le droit d'être sûr. Ah, vous n'êtes pas sûr avec votre affirmation? Oui, je ne suis pas sûr. Donc, il y a une possibilité que vous vous trompez. Oui, donc dans l'hypothèse que vous trompez peut-être, j'ai eu raison de dire que je suis sûr. Mais la France ne veut pas que les gens y soient sûrs. Il faut avoir un esprit critique, hyper critique, quand il s'agit s'il y a un Dieu au monde ou pas, il ne faut surtout pas que tu es sûr. Moi je vais vous lire un texte, vous allez me dire, qui est-ce qui écrit ce texte? Je vous fais un petit devinette. Je vous lis un texte. Dites-moi qui vous pensez être l'auteur. Voilà. Il y en a un type qui a écrit comme ça. On ne voit pas chez le peuple hébreu une action généreuse. Ils ne connaissent ni l'hospitalité, ni la libéralité, ni la clémence. Leur souverain bonheur est d'exercer l'usure avec les étrangers. Cet esprit d'usure, principe de toute lâcheté, est tellement enraciné dans leur cœur que c'est l'objet continuel des figures qu'ils emploient dans l'espèce éloquente. C'est éloquente que leur est propre. Leur gloire est de mettre à feu et à sang les petits villages. Donc ils peuvent s'emparer. Ils égorgent les vieillards et les enfants. Ils ne réservent que les filles nubiles. Ils assassinent leurs maîtres quand ils sont esclaves. Ils ne savent jamais pardonner quand ils sont vainqueurs. Ils sont ennemis du genre humain. Nulle politesse, nulle science. Nul art perfectionné dans aucun temps chez cette nation atroce. Alors, qui est l'auteur de ce texte? Hein? Hitler, c'est pas mal, ça peut lui correspondre. Hein? Quoi? Un type d'Amalek, un type qui a des onzines d'Amalek. Qui pense? Qu'est-ce que vous pensez? Comment il s'appelle? Hein? Hein, quoi? Voltaire. C'est Monsieur Voltaire. Il est l'auteur de ce texte. Voltaire, celui-là des lumières, l'esprit critique, la raison qui refuse tout dogmatisme. Un des grands penseurs de la France qui a aidé que la France sorte de l'idée qu'il y a un Dieu et qu'il faut rester dans le doute. Il ne faut pas être sûr qu'il y a un Dieu. Il faut rester sceptique. C'est la lumière de la France. Lui, il écrit « Nation atroce. Leur gloire est de mettre à feu et à sang les petits villages. Ils égorgent les vieillards et les enfants. » Comment un esprit éclairé peut écrire de telles idioteries, de telles contre-vérités? Comment un homme comme Voltaire, qui fréquente les lumières, les gens qui réfléchissent, les gens qui sont censés d'avoir un peu de jus, comment il raconte des bêtises comme ça? On dirait que c'est un Hitler, c'est un petit fou d'un petit café que toute la journée il entend la radio palestinienne ou hitlérienne et raconte des balivernes. Et ces gens-là, ils ont formé la culture française moderne. Qu'est-ce qu'il se passe? Bon, comment il a disjoncté? Mais ça, c'est l'hypercritique. Quand un homme, il veut refuser, je veux refuser ce que l'autre dit. Alors, tout est permis de dire la plus grande ânerie, la plus grande bêtise du monde, tout est cachère. Je veux refuser quoi? il faut démonter les Juifs. Cet homme-là, il avait un impératif de salir les Juifs. Pourquoi ? Bon, peut-être un Juif le roulait dans les affaires, c'est possible, je ne sais pas. Peut-être il est au métro, quelqu'un, un Juif lui a marché sur le pied. Bon, le maître n'existait peut-être pas. Mais peut-être quelqu'un, il a roulé, ou son père, ou sa mère, qu'est-ce que je sais, peut-être son père était un grand jésuite. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris pour écrire ça. Il y avait des copains, la propagande, il a entendu propagande antisémite. Bon. Mais cet homme-là, il a créé que la France doit rester dans le doute vis-à-vis de Dieu. Donc il faut refuser le Chumash, il faut refuser le Tanakh, il faut refuser les miracles de la sortie d'Égypte. Tout ça, ça ne peut être qu'une invention juive. Que Dieu, il a créé le monde, on n'a pas le droit d'être sûr. Parce qu'il faut vivre dans le doute. Parce que la vraie motivation donne de la chaleur. Et la chaleur peut devenir chez l'homme dogmatique. Et après, ça peut donner des guerres de religion. Pour l'Imoutsrout, si on peut dire un Imoutsrout sur lui, il a vu beaucoup des guerres de religion. Les protestants avec les catholiques se sont tapés dessus. Vous connaissez la nuit de Saint-Bartholomé en Égypte? Hein? Quoi? Bon, ils se sont tabassés, ils sont massacrés. Alors lui, il a dit, mais les gens, ils sont brels, chacun y croit que sa vérité. Avec sa vérité, il va écraser ceux qui pensent autrement. Donc lui, il a dit, ah, il faut pas être dogmatique. Il faut pas être sûr, donc il faut rester dans le doute. Mais les Juifs, ils ont dit qu'il y a des convictions. Il faut casser les convictions des gens. Alors, il était convaincu qu'il faut casser toute conviction. Il était convaincu. Ça, c'est la maladie française. C'est une maladie. C'est une maladie de l'esprit de vouloir tordre et de s'imaginer un scénario que le monde existe sans académie. C'est une folie. Mais on veut rentrer dans la folie quand un homme il veut croire à quelque chose. Il s'accroche à des scénarios qui n'existaient pas. Moi, je me demande toujours, comment vous faites Megillat Esther? Un Amaléki qui tombe sur Megillat Esther, qu'est-ce qu'il pense? Hein? Pile, Achashverosh, il va pendre sa femme parce qu'Haman, il a donné
l'ordre.
Et après, c'est la femme juive qui devient la reine, comme par hasard. Et après, c'est Haman lui-même, il veut pendre Mordechai. Et après, lui-même, il se fait pendre sur... Et puis, il n'arrive pas à dormir la nuit et on raconte le truc que Mordechai l'a sauvé. Pourquoi il n'a pas dormi cette nuit? Hein? Parce que Esther, elle a invité Haman, donc il a dit, qu'est-ce que ces deux-là, ils sont ensemble? Il y en a un autre qui dit ça, c'est parce qu'il a bu trop de café. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas dormir. Et comme c'est sorti les miracles des Pourim, on l'appelait Nescafé. Mais dans toute l'histoire de Megillat Esther, il y a un enchaînement bien qu'on voit la main d'Hachem derrière, comment il a sauvé le peuple juif. Mais si quelqu'un il est antisémite, un type qui a Amaléki, qui ne veut pas voir de Dieu dedans, vous savez comment il étudie Megillat Esther? Moi, je vais étudier Megillat Esther maintenant comme un Amaléki l'étudie. Pourquoi il a fait un festin à Achashverosh? Pourquoi il a fait un festin? Il a apporté beaucoup de vin au festin. Des sous. Pourquoi? Hein, c'est quoi la vérité? Hein? Il voulait crâner quel est le pouvoir. Et pourquoi il a pris du vin et pas de l'eau? Hein? Parce qu'il aimait le vin. Parce qu'il aimait le vin. Il était français. Il aimait le vin. Un Amaléki dit non, ça doit être un coup des Juifs. Probablement c'est Mordechai qui a dit à Achashverosh, tu veux pas faire un bon festin? Oui, pourquoi pas. Et après Mordechai était pendant le festin, la sorte qu'ils sont Ishvaïs. C'est lui qui a dit, Achashverosh, de boire le vin, sûrement. Après, Achashverosh, il est sous. Et quand il était sous, il a demandé d'amener Esther. Et après, comment ça se fait que Haman, il a... Et Vashti. Et comment ça se fait que Haman, il a donné l'idée? Ça devait être à l'arabe Mordechai. Il a dit à Haman, dis au roi qu'il faut pondre Vashti. Sûrement, le Saint-Juif derrière. Alors Haman, il a dit, pourquoi Mordechai il a dit ça? Parce qu'il espérait après de mettre sa cousine Esther comme reine. C'est lui qui a calculé. Et après, quand Haman, il a dit, il faut exterminer, comment il a eu cette idée? Tu crois vraiment que Haman, il est méchant? Ça doit être un coup d'un juif. C'est Mordechai sûrement, il a dit, Haman, tu ne veux pas tuer les juifs, ils sont méchants. Et lui, il a monté le truc. Et après, lui, il est parti dire à Bigtan Vateresh, il faut tuer le roi. Et après, lui, il a raconté à Achashverosh. Et Achashverosh, il a tué Bigtan Vateresh. Après, il a demandé qu'on écrit son nom. Et c'est comme ça qu'ils travaillent, les antisémites. Vous connaissez le livre de... Le protocole des sages de Sion? On a parlé une fois de ça. Un livre où les antisémites s'imaginent que tout ce que se passe dans le monde, c'est l'œuvre des juifs. Ils sont derrière tout. Les banques et les présidents et la politique, ils sont partout, ils manipulent tout parce qu'ils veulent s'accaparer le monde, ils veulent détruire le monde, ils veulent être le chef. C'est le même esprit tordu d'Amalek. On a une idée dans la tête, on est passionné par quelque chose, et on fait des scénarios qui ne tiennent pas. On s'imagine des choses. On voit une histoire dans Megillat Esther, et tout est clair. Il y a ici la main d'Hachem derrière, mais ce n'est pas les juifs, ils peuvent, et les juifs ne peuvent pas manipuler. Là où il y a Kadesh Baruch Hu, les antisémites, ils croient que c'est les juifs. Ils mettent les juifs. En vérité, quand c'est Akadosh Baruch Hu qui fait, ils s'imaginent que quoi? Ou le juif il a fait, ou c'est? C'est pas Akadosh Baruch Hu qui a fait. Purim. Pourquoi ça s'appelle Purim? Al-Shem Hapur. C'est quoi Shem Hapur? Goral. Oh, ou Hagoral. C'est quoi Goral? Tirage au sort. La fête, elle s'appelle la fête de tirage au sort. Ça veut dire quoi ça? Par hasard. Ça veut dire, chez Haman, les événements du monde ne sont pas dirigés par quelqu'un. Ils arrivent par hasard. Et l'hasard, il fait les choses d'une façon tellement géniale. Non, tout ça par hasard. Tirer par des cheveux, une logique tirée par des cheveux. Haman, il refuse qu'un homme, il raisonne de façon logique. Est-ce que ça c'est là où l'homme, il doit voir que c'est géré par Hachem, il dit que c'est un hasard. Et là où le juif ne peut pas intervenir, on croit que le juif, il est derrière. On enlève à Hachem son pouvoir de gérer et on attribue les juifs d'un pouvoir qu'ils ne peuvent pas faire. On prend des humains, on s'imagine qu'ils sont super forts quand ils ne sont pas. Et ce qui est super fort, on essaye d'oublier et de ne pas être émerveillé. Un homme qui ne peut plus s'émerveiller devant une vérité, il est mort. On raconte sur Einstein, il a dit, quand je regarde la nature, je suis tellement excité, émerveillé, enthousiaste devant la sagesse de ceux qui ont créé le monde. Il a dit que si tous les scientifiques du monde, ils vont encore pendant 1000 ans découvrir chaque année un peu plus de ce qui est dans la nature, le génie, les merveilles qu'il y a dans la nature. Alors dans 1000 ans, on aura découvert qu'une petite partie des secrets de ce qui est dans la nature. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde tellement fantastique qu'il faut être émerveillé devant ça. Quelqu'un qui ne peut pas s'émerveiller devant ça. La Rambam dit, pour aimer Hachem et pour craindre Hachem et pour voir la grandeur d'Hachem, il faut regarder sur la nature d'Hachem. Pas forcément de ce que les gens y font. Parashat Bereshit commence, Hachem il a créé le monde, vayar Hachem et kol asher asa vihin et tov. Mais oh, tout ce que Hachem il a fait, c'est bien. Et à la fin de Parashat Bereshit, c'est marqué, Hachem il a vu que ce que les gens y font, rakra kol ayom. Les gens y font que des choses tordues. Les gens sont tordus, Hachem n'est pas tordu. Si tu veux voir des choses droites, Eh bien, il faut regarder, en effet, la nature. La nature monte à la main d'Hachem. Amalek, il ne veut pas arriver à cette conclusion. Parce qu'il ne veut pas que les gens, ils s'imaginent qu'un jour, on sera obligé de rencontrer celui qui est droit, ce qui est intelligent, ce qui est super puissant. Et ça, c'est une guerre qu'Amalek, il fait. Bechol dor vador. Chaque génération, il essaie de refroidir. Dès que quelqu'un il est ma'amin, il faut le détruire. Il faut le déstabiliser. Mais le mot karcha ne veut pas simplement dire il te refroidit aux yeux des nations, mais il te refroidit toi-même. Les juifs eux-mêmes, ils ont eu un doute après. Et peut-être c'est vrai que c'était par pur hasard. Et peut-être Moshe Rabbeinu il travaille par pur hasard. Et peut-être on a tort. La pointe la plus forte d'Amalek, c'est d'embrouiller les juifs. Karcha, il t'a refroidi toi-même. Embrouiller que les juifs, il perd les pédales, il perd son assurance, il perd sa conviction. Faire perdre aux juifs sa conviction, ça c'est le but ultime que lui se cherche. Embrouiller. Ce qui est important, qu'un juif, il reste chaud, qu'un juif, il reste droit. Une thèse qui n'existe pas, elle n'existe pas. On ne fait pas des doutes sur là où il n'y a pas des doutes. Les contes de fées pour adultes, Darwin, c'est un conte de fées pour adultes. Il faut le laisser pas dans des livres de science, dans des science-fiction. La tragédie de la France, qu'est un conte de fées pour adultes, on a mis dans un livre de science. Science, les gens, ils respectent science. Science, ça c'est des grosses têtes, c'est génial, ça on peut prouver, c'est clair, personne ose de contredire la science. Alors ils ont fait glisser le plus grand bluff du monde dans un livre de science. Livre de science et biologie que j'étais une fois un chimpanzé, je me rappelle encore. Moi j'étais un chimpanzé un jour. Il y a 400 milliards d'années, je me rappelle. Et je me rappelle encore, le chimpanzé, avant, il était un poisson, je pense, non? Et avant, il était un lézard. Et avant, il était un microbe, je me rappelle très bien. J'ai une photo, je dois avoir une photo. Un jour, ça poussait des ailes, après, ils sont tombés. Ça, c'est de la science. Ça n'arrive même pas à un roman de Tintin. Même Mickey, il est plus intelligent. Pourquoi on laisse des choses comme ça? Comment des gens intelligents? Comment un Voltaire, il peut écrire un tel chiffon? Et il n'y a pas que ça, il y en a plein. Il a écrit des chapitres sur les Juifs. Une plus idiot que l'autre. Tout ce qu'il écrit sur les Juifs, c'est à perdre les cheveux, même si on n'en a pas. Parce que quand on veut défendre une thèse, on essaie de la défendre à bec et ongle, même que ce n'est pas logique, mais l'écart pour nous de savoir ce qui est vrai est vrai, on ne se laisse pas embrouiller. Ça, c'est la mitzvah de Mechriat Amalek. Bonne journée.